Donc, on va travailler ce soir sur la problématique de la formation des personnels soignants avec un titre qui est un peu accrocheur, mais qui nous a semblé extrêmement important parce que on s'aperçoit quand même qu'à l'heure actuelle, on est très souvent sur ce qu'on appelle des querelles de clochers. On voit les débats qui sont extrêmement, quelquefois, passionnés, malheureusement pas toujours passionnants sur tout ce qui concerne les nouvelles compétences. Les transferts de compétences, les délégations de tâches, enfin beaucoup de choses qui tournent autour de ce combat. Demain, l'hôpital sera très certainement aussi investi par un certain nombre de professions qui n'ont rien de médical et rien de sanitaire. Donc, toutes ces questions nous semblent absolument essentielles dans un contexte qui est un contexte de réfaction de la quantité de professionnels de santé mis à disposition de la population. Il nous a donc semblé que ce thème était un thème qui était particulièrement important à aborder dans notre dernière réunion de Objectif Santé 2022. Alors, on a comme intervenant Jean-Paul Segade, qui est président du CRAPS et qui est ancien directeur général de la PHM, Emmanuel Touzet, qui est professeur de neurologie, directeur de l'UFR médecine de Caen et qui est membre de l'ISA, Françoise Janson, qui est vice-présidente santé et Silver Economy du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et qui est membre de l'Observatoire, qui représentera l'Observatoire de la régionalisation. Et pour les électrons, on a donc Guy Valencien, qui est président du CHAM, et Philippe de Normandie, qui est membre du Conseil de la CNSA et qui est également membre des électrons. Voilà, je vais passer tout de suite la parole dans l'ordre que je vais bouleverser. Je vais passer la parole à Françoise. Non,
Ça,
pas
c'est pas
prête.
sympa.
Honneur. Voilà, on a une parité qui n'est pas très respectée, donc il est quand même, Françoise, tout à fait naturel que on essaye, au moins dans l'animation du débat, qu'on essaye de compenser.
Non, je n'étais pas tout à fait prête, mais je vais quand même dire deux, trois mots. Et puis, je pense qu'il y aura du débat après et que le reste, je le dirai dans la suite des discussions. Alors, j'interviens ici aussi en tant que conseillère régionale. Je voulais juste commencer en rappelant quelque chose que quelquefois les gens ne savent pas. C'est que les conseils régionaux forment près de 80% des professionnels de santé. Ça paraît étonnant, mais quand on fait le compte, on se dit que finalement, en formant les sages-femmes, les infirmières, les kinésithérapeutes, les aides-soignantes, les ergots, etc., et bien ça représente 80% des professionnels de santé qui ont donc été transférés aux régions il y a quelques années. Et quelle est la volonté ou pourquoi est-ce que les régions y sont aussi attachées? Je pense que, de toute façon, ça n'est un mystère pour personne, c'est parce que ce maillage, ces professions de santé sont des professions de santé qui sont formées partout sur les territoires et pas simplement dans les centres hospitaliers et dans les grandes villes. Qu'on sait bien qu'il y a des IFSI, il y en a en moyenne un à deux par département, ce qui n'est pas le cas évidemment des universités de médecine, pharmacie ou dentaire, que pareil, les kinésithérapeutes, il y en a souvent plusieurs, y compris par grande région, et que les régions se sont toutes beaucoup attachées à conserver ce maillage territorial de la formation. Parce que c'est en particulier pour des formations qui durent assez peu longtemps, hein, entre 1 et 3 ans, c'est à la fois un atout d'aménagement du territoire. Une ville, un IFSI pour une ville moyenne, c'est un atout d'attractivité important. Et puis, c'est une garantie aussi d'avoir des professionnels ensuite qui seront embauchés par les hôpitaux, qui iront travailler en libéral sur ce territoire. Et en cette période de déprise territoriale, en particulier dans les professions médicales, c'est extrêmement important. Je vais vous donner juste un exemple. À force qu'on dise aux médecins, aux étudiants en médecine dans les grandes universités parisiennes, Si vous êtes mauvais, il ne vous restera plus qu'à être généraliste au fin fond de la Creuse. Eh ben, on a gagné. Il n'y a plus beaucoup de généralistes au fin fond de la Creuse. Par contre, c'est un des départements où il y a le plus d'infirmières. Et c'est assez heureux pour les Creusois, d'autant plus qu'elles sont compétentes et très organisées. Donc ça, c'était le premier point. Et je pense que ensuite, l'enjeu pour les régions dans l'avenir, sur cette question des formations paramédicales, c'est qu'il faut continuer à former les gens sur les territoires tout en faisant de ces formations des formations d'excellence. On voit bien que, a fortiori pour ces questions territoriales et en raison de la baisse à venir encore pendant une dizaine d'années du nombre de médecins, les infirmières en particulier, mais du coup aussi des autres professions paramédicales, vont avoir des rôles de plus en plus importants. Et on le sent au quotidien. Alors, il y a des IPA, bien sûr, mais l'ensemble des infirmières, le métier d'infirmière en particulier, monte en compétence. Et que donc, l'enjeu et la gageure dans les formations, c'est d'avoir, je dirais, dans 1 à 3 instituts de formation sur les territoires, la même qualité de formation qu'il peut y avoir sur les CHU. Et ça se travaille étroitement avec les universités et avec les professeurs qui font les cours universitaires, en particulier dans les IFSI. Et il faut monter en puissance sur les autres formations, c'est-à-dire sur les kinésithérapeutes, sur les orthoptistes, encore plus ça reste beaucoup dans les flux, sur les ergos, etc., pour avoir des professionnels voilà, qui allient à la fois une formation et une formation de très haut niveau. Ça, qu'est-ce qui va nous y aider? C'est bien. Et là, j'arrive sur un deuxième sujet qui est tout à fait différent, mais qui a quand même un lien. C'est qu'on n'aura pas dans l'avenir des professionnels de santé adaptés à leur territoire et à leur métier si on n'inclut pas dans leur formation la formation au digital. Par le digital, bien sûr, mais aussi au digital. Comment est-ce que moi, professionnel de santé, quel qu'il soit hein, d'ailleurs, je ne suis pas maîtrisée par le digital et le numérique, mais moi, je le maîtrise et moi, je comprends pas très bien que dans aucun des référentiels de formation, il n'y ait ni le mot digital ni le mot numérique et que ce ne soit pas inclus de façon plus importante dans les formations des professionnels de santé. Il me semble que c'est important que d'ici quelques années, de le maîtriser, de pouvoir savoir coder davantage. Pourquoi pas? Ça, c'est des débats à avoir. Enfin, le troisième sujet dont je voulais parler, c'est que quand on parle de professionnels de santé et puis avec le panel de grands spécialistes qu'on a autour de la table, on parle donc de profession médicale, de l'avenir, donc je viens d'en dire un mot sur les paramédicaux. Et dans les paramédicaux, il faut bien savoir quand même que parmi les professionnels de santé, ce dont on manque le plus en ce moment, ce sont les aides-soignantes. Je le dis parce que c'est pas une question universitaire, mais que c'est, je pense, la seule profession de santé dont on va avoir besoin de doubler le nombre dans les années à venir. Et pour nos anciens, mais pas simplement, parce qu'il y en a besoin aussi dans les structures sanitaires. Et ça, c'est un enjeu, je pense, d'avenir, à la fois en termes de nombre, en termes de compétences aussi. Et donc, ça jette un enjeu aussi sur la question de la qualité des emplois. Et je finirai là-dessus, dire qu'on va parler des formations aujourd'hui, qu'on est confronté, on le voit bien depuis quelques années, et encore plus depuis le début de cette crise, à une désaffection des métiers de la santé, non pas une désaffection en termes d'attrait des formations, sauf peut-être pour les aides-soignants parce que c'est plus ancien, mais on voit que les gens quittent ces métiers hein, dans les conclusions des personnes qui font les entretiens, vous savez, d'évolution professionnelle, montrent que parmi les gens qui sont vus par les conseillers en évolution professionnelle, il y en a un tiers qui sont des professionnels du domaine de la santé qui souhaitent le quitter. C'est quand même beaucoup. Et il y en a beaucoup aussi qui souhaitent rentrer dans le domaine de la santé, d'ailleurs. Et heureusement. Mais ça veut dire qu'on a un enjeu massive dans les années à venir, et là, je ne parle pas de thérapie cellulaire, je ne parle pas des grands enjeux, je dis dans quelques années, si on veut avoir des professionnels de santé, il faut aussi qu'on leur prépare des conditions de travail qui sont attractives et qui donnent envie à ces jeunes infirmières toutes fraîches et moulues de leurs écoles de continuer à travailler dans le domaine de la santé. Voilà pour ces quelques points par lesquels je pouvais démarrer. On vous entend pas.
On t'entend pas, Olivier.
Moi, excusez-moi, je m'étais mis en mute pour mieux écouter. Merci Françoise pour ces points relevés par l'Observatoire de la régionalisation. Je passe tout de suite la parole à Jean-Paul Ségade, donc qui est président du CRAPS. Jean-Paul, tu es en mute comme moi tout à l'heure.
Qu'est-ce que vous me voyez? C'est bon, ça va?
On te voit et on t'entend.
Bon, mais c'est très bien. Merci de nous aider à réfléchir collectivement à cette problématique. Moi, je voudrais mettre au débat trois constats, trois réalités et puis un problème de méthode. D'abord, trois constats. Je ne vois pas en quoi le domaine de la santé échapperait à ce que les économistes, et j'en refaire au bouquin de Forestier pour ceux qui l'ont lu, Machinisme et bien-être, en quoi la santé ne serait pas concernée par l'évolution, les incidences de l'évolution du progrès technique, du progrès médical dans son facteur de production. Je crois que quand tu disais querelle de clocher, moi je me dirais aussi quel conservatisme, pour reprendre l'idée de Guy Valencien. Je ne vois pas en quoi la santé échapperait à cette règle qui fait que quand il y a un progrès technique et le progrès médical se développe, il y a, on le sait très bien, spécialisation des métiers, modification des facteurs de production et modification de la combinaison des facteurs de production. Je ne comprends pas pourquoi on veut garder, comme dans le marbre, les grands principes traditionnels des années 50 en appliquant un progrès médical qui est aujourd'hui complètement différent. Deuxième constatation, le malade dans tout ça, il se fout complètement de nos statuts, de nos querelles. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas un problème de nombre, c'est un problème de compétence. Et je vous cite toujours cet exemple qui m'est arrivé quand j'étais jeune directeur, où j'avais un examen à me faire, je ne savais pas lequel, et je suis passé aux urgences, et le chef de service m'a dit « Ah, je m'occupe de vous ». Je n'ai jamais eu le bleu aussi le plus important de ma vie à mon bras pour cette prise de sang. Et là, la soignante m'a dit « Mais monsieur, il n'a pas exercé. » Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le nombre, c'est le problème de compétence. Et quand, tout à l'heure, madame, vous avez fait allusion à la Creuse, que je connais un peu, l'Auvergne étant assez proche de ce département. Mais c'est vrai que certes, il y a peu de médecins, mais comme il y a beaucoup d'infirmières, peut-être que les meilleures combinaisons entre les infirmiers et les médecins font que les médecins peuvent produire en termes de soins deux fois plus que celui qui est à Cannes ou à Grasse. Voilà, première constante. Donc, ce qui intéresse les malades, c'est les compétences. Troisième élément de sens, et Emmanuel Touzé qui est là, je l'interrogerai en lui posant une question, c'est que les gens s'engagent dans un métier non pas pour avoir uniquement un statut, aujourd'hui c'est fini, ils s'installent pour avoir un sens, une dynamique. Or aujourd'hui, le seul sens qu'on donne à une infirmière, c'est de lui dire, ben, quand tu seras compétente, développée, ben, tu quitteras le métier soignant pour être administratif, c'est-à-dire directrice des soins. Et de la même façon qu'on a le même problème avec des jeunes agrégés qui refusent de passer l'agrégation parce qu'ils voient arriver une course sans fond dans laquelle on n'a pas dégagé de profil, on n'aura pas donné une ligne. Donc face à ces constats, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors d'abord, ce qu'il ne faut pas faire, la grande erreur, c'est d'oublier dans notre débat, excusez-moi, mais maintenant je suis moins tenu par l'obligation de réserve que quand j'étais à l'IGAS ou directeur d'hôpital. Je pense que, et Pierre Massé le dit très bien dans son livre « Le plan et l'anti-hasard », il y a, dans le jeu des hommes, il y a deux jeux. Il y a le jeu contre la nature, disait-il, c'est-à-dire améliorer la productivité, inventer. Et puis il y a le jeu entre les hommes, c'est-à-dire la redistribution des richesses. Et on le voit très bien dans le rapport de l'IGAS qui est sorti récemment sur les transferts de compétences, le modèle économique et financier pèse dans le débat qu'on aura ce soir. Il pèse directement. Et il faut avoir le courage et arrêter cette espèce d'hypocrisie qui est de dire « Non, non, mais nous, la santé, ce n'est pas ce secteur-là. Il faut qu'on le mesure et qu'on l'évalue correctement. » Deuxièmement, quand on ouvre la porte ou la fenêtre, quand on regarde ce qui se passe en Europe, on se dit, mais je ne comprends pas, les Allemands, les Danois, les Suédois, on a les mêmes gènes, on est pareil, non? On a les mêmes médecins, les mêmes techniques, et pourquoi on n'a pas les mêmes règles de séparation ou de répartition des compétences entre différents métiers? Pourquoi ce qui marche en Suède ou au Danemark ou en Allemagne, ça ne marcherait pas en France? À moins de considérer que la France est tellement atypique, que le modèle est tellement particulier, que les Français étant génétiquement pas programmés pour, on ne peut pas le faire. Et enfin, dernier point, et je crois que c'est important, la troisième erreur à ne pas commettre, c'est de croire que l'État va gérer ça à notre place. Je n'y crois pas. Je reste persuadé qu'aujourd'hui, comme pour demain, c'est plus facile à un ministre des Affaires de la Santé et des Affaires sociales de refaire une loi que de modifier l'arrêté ministériel portant nomenclature des actes médicaux. La preuve, c'est que le président de la République lance cette réforme avant les présidentielles en se disant « vous me rendrez le rapport dans 4 ans ». Donc on est tranquille quand on sait qu'une commission rend un rapport dans 4 ans. Et que je ne crois pas que l'État peut à lui tout seul y arriver. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, la première constatation, et le CRAPS est porteur de cette idée, qui est d'abord, il ne faut pas attendre l'unanimité. Moi, le premier qui me dit tout le monde sera gagnant, je n'y crois pas. Je ne crois pas à une évolution où tout le monde est gagnant. Je pense qu'il y a, dans toute évolution, des gens qui sont moins gagnants que d'autres. Et donc, il faut ne pas transformer l'intérêt général à la somme des intérêts particuliers. La deuxième, et Madame l'a dit très bien, beaucoup de gens ne savent pas que les régions, les collectivités territoriales ont déjà un rôle dans le financement, notamment, essentiellement dans le financement des écoles paramédicales, et qu'elles peuvent, en lien avec les ARS, développer des stratégies. Et donc, il faut s'appuyer sur les acteurs locaux. Dans une réalité qui est très complexe, parce que tout à l'heure, on en parlera peut-être dans les questions, mais on mélange tout entre le partage de compétences, les délégations de compétences, les protocoles de coopération, la pratique avancée de généralistes et spécialistes, et les termes ne sont pas tous les mêmes. Et donc, ce que nous, au niveau du CRAPS, on a essayé de réfléchir, c'est de se dire, si on considère que la santé est le volet social du pacte républicain qui nous unit, il faut qu'on renverse un peu la table, c'est-à-dire qu'on demande à l'État de s'occuper de ce qui est à s'occuper, la grande régulation, les grands principes, mais que les acteurs de terrain, et je pense que la région est à un bon niveau, les acteurs de terrain peuvent apporter des solutions différentes. Différentes, ça veut dire qu'il faudra accepter que ce qui se passe en Bretagne est peut-être différent de ce qui se passe en PACA. Ben oui, et après. C'est-à-dire, c'est pas l'égalité et l'équité sont deux termes différents. Deuxièmement, que ne pas avoir peur de mettre le modèle économique et financier de nos organisations en route et en discussion, parce que, bon... Dans quoi qu'il en coûte, il y a quand même des institutions qui ont gagné beaucoup plus d'argent et donc qui ont perdu quand même dans la crise du Covid. Il faudra bien qu'on en débatte un jour sur l'évaluation des politiques publiques. Et donc, il faudra mettre en place ce type de discours et ensuite mettre, j'allais dire, tous nos partenaires, les partenaires professionnels. Alors, il y a bien sûr les ordres, il y a aussi les représentants syndicaux. Et je crois beaucoup plus, et nous croyons au niveau du CRAPS, plus à des accords de terrain locaux qu'à une grande conférence nationale. Parce que les grandes conférences nationales, ça fait 40 ans que je les subis, ça fait 40 ans qu'on fait des rapports, ben tu dois connaître, enfin Olivier, tu vois ce que je veux dire, moi j'ai participé à la mission Juppé, j'ai participé à la mission de Vulder, j'ai participé à la mission, enfin toutes les missions possibles, Larcher, et j'en passe, c'est les meilleurs, on a fait de beaux rapports, et on s'aperçoit qu'on n'a quand même pas bien réglé les problèmes, et qu'il y a encore des problèmes à régler. Et donc le CRAPS se dit que dans le débat qu'on aura à avoir, il faut croire aux acteurs locaux et professionnels, demander à l'État de se cantonner à ses règles et ne pas d'être trop précis dans ses... Et par contre, faire donner un cadre et laisser les acteurs et obliger les acteurs d'agir dans ce cadre-là. Merci de votre patience et de votre écoute.
Merci beaucoup Jean-Paul pour ces propositions qui vont certainement susciter le débat. Emmanuel, je vous passe la parole pour Lisa. Donc, quelle est la position de Lisa par rapport à la formation des professionnels?
Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre un peu les éléments d'une note qu'on a publiée sur le site internet de Lisa, puisqu'on voit bien que la formation a quand même un rôle majeur finalement, il y a un lien fort entre la formation et le système de santé. À la fois, la formation doit évoluer pour répondre aux évolutions du système de santé, aux besoins de santé, mais la formation a aussi un impact elle-même. Par la façon dont elle forme les professionnels, elle peut aussi modifier l'organisation du système de santé. Et le constat qu'on fait quand même, c'est que la formation, en tout cas la formation universitaire hein, que je connais, elle n'est pas toujours très anticipatrice des évolutions du système. Elle est souvent en décalage temporel. Et quand on sait combien de temps il faut pour former des professionnels de santé, elle est, on peut dire qu'elle est souvent en train d'essayer de rattraper le train qui est déjà en route depuis un moment. Alors, on peut dire qu'il y a quand même eu un certain nombre de réformes et on vit des réformes de tous les cycles des études médicales, de d'autres cycles de formation actuellement, l'universitarisation des formations paramédicales. Donc, on n'est pas en peine de réformes en ce moment. Et elles sont importantes, ces réformes, elles sont attendues depuis longtemps, mais il faudra sans doute aller un peu plus loin. Alors, sur la formation, je pense qu'il y a des trois enjeux. Il y a des enjeux quantitatifs, ça a déjà été évoqué, c'est combien de professionnels il faut former. Des enjeux qualitatifs, c'est quelles compétences on attend. Et puis, des enjeux de répartition, même si la formation n'a qu'un rôle assez, pas marginal, mais donc ce n'est pas le seul élément qui va jouer dans la répartition des professionnels de santé, même si elle joue. Alors, dans les constats, on peut quand même toujours dire que les formations restent des formations en silo, qu'il y a une rigidité importante dans les maquettes de formation, une rigidité dans les carrières, et c'est en particulier vrai pour les carrières paramédicales. Il y a encore assez peu de capacités de formation en dehors des métropoles et des CHU, et pourtant on sait que c'est important de former les professionnels au plus proche des territoires parce que c'est là où ils ont été formés qu'ils vont avoir tendance à s'installer, qu'il y a encore très peu de place à la coopération entre les professionnels pendant la formation, or ils vont être obligés de travailler ensemble plus tard, et donc si on ne leur apprend pas très tôt à travailler ensemble, eh bien, il peut là aussi y avoir des décalages et des incompréhensions au moment de l'exercice. Qu'on ne sait pas faire une bonne régulation numérique, et en tant que président de l'ONDPS, j'y travaille depuis un moment, c'est très compliqué de faire une bonne régulation du nombre de professionnels de santé parce qu'on continue à raisonner profession par profession et que tout ça, ça ne résout pas non plus les problèmes de répartition. Donc, on essaye de proposer des nouvelles approches. C'est d'essayer de vraiment partir des attentes du système. Et donc ça, il faut qu'on ait une réflexion qui soit plus intégrée sur des grands champs de santé, par exemple les soins primaires, la santé de la femme, la santé mentale, de dire dans ces grands champs-là, c'est quoi l'épidémiologie, c'est quoi les besoins et c'est quels sont les professionnels qui peuvent travailler ensemble. Et c'est l'ensemble professionnels médicaux, paramédicaux, pour définir des besoins en ressources et des besoins en compétences pour traiter ces grands champs de prise en charge de la population. Donc ça nécessite d'avoir une vision très prospective, très collective, très pluriprofessionnelle pour intégrer tous ces professionnels dans cette approche. Donc on a fait un certain nombre de propositions, on en a fait 20, je ne vais pas vous les lister, mais je voudrais insister sur quelques-unes. Ce qui est important, il me paraît important, c'est que les professionnels de santé s'emparent un peu mieux des sujets d'organisation du système de santé et des enjeux de santé publique, des enjeux de responsabilité sociale des professionnels. Et donc, il faut qu'ils soient plus intégrés dans les réflexions des politiques nationales de santé. Et à l'inverse, ceux qui font les politiques nationales de santé s'impliquent aussi dans les formations. Il faut qu'on réfléchisse à la compétence dans un périmètre plus large. Ça veut dire qu'il faut qu'on se dise qui fait quoi dans le système et qu'on arrête de faire des doublons, d'avoir des craintes que telle ou telle profession s'empare de tel ou tel champ qui est déjà pris par un professionnel. Il faut qu'à un moment, on arrive à se mettre d'accord. Alors, je ne sais pas quelle est la méthode. On s'est dit que peut-être qu'il faudrait avoir une réflexion nationale, essayer quand même de mettre un moment tout le monde autour de la table et de redéfinir les champs de compétences. Comme ça a été dit tout à l'heure, dans d'autres pays, les professionnels coopèrent entre eux et dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, on a dans certains pays européens jusqu'à 8 professionnels paramédicaux qui travaillent avec des médecins. Alors que dans d'autres, c'est quasiment rien et en France, ça ne marche pas très bien. On a aussi proposé que les quotas on a supprimé le numerus clausus pour les professions médicales et pharmaceutiques, mais qu'on supprime aussi les quotas pour les formations paramédicales et qu'on laisse plus la main aux acteurs régionaux pour définir les besoins dans un contrat, bien sûr, avec l'État, mais que les besoins soient définis localement. Aussi, valoriser l'engagement territorial, c'est-à-dire que des professionnels qui, à un moment, vont aller exercer dans des zones sous-denses, eh bien, ils puissent derrière être un peu valorisés dans leur évolution de carrière, faciliter l'accès à des formations particulières pour évoluer dans leur métier, voire accéder à des spécialités, à des nouvelles choses. Il faut que ce soit valorisé. Aujourd'hui, ce n'est pas encore assez valorisé, autrement que par des financements qui ont beaucoup de limites. On a aussi proposé de favoriser l'évolution des compétences, la montée en compétences de l'ensemble des professionnels. Bien sûr, il y a les pratiques avancées, mais c'est aussi de permettre à des professionnels qui ont une forte expérience de pouvoir exercer un nouveau métier. On peut très bien imaginer qu'un professionnel paramédical, par la voie de passerelle, puisse un jour exercer des professions médicales. Aujourd'hui, ça reste encore trop marginal et c'est pourtant aussi une façon de maintenir les professionnels de santé dans le système. Si aujourd'hui il y a des fuites, c'est qu'à un moment, peut-être, ils n'y trouvent plus leur compte. Il faut qu'on trouve une solution pour leur donner envie de rester. Je l'ai dit, mieux former les professionnels de santé aujourd'hui du système de santé, donc aussi l'importance de la démocratie sanitaire. Je pense que beaucoup de professionnels de santé ne se rendent absolument pas compte des attentes des usagers. Il n'y a pas assez de dialogue entre les usagers et les professionnels de santé. Qu'ils comprennent qu'ils ont une mission de service public, que chacun, professionnel de santé, quel que soit le mode d'exercice, on a tous une mission de service public et qu'on n'est pas dans la liberté complète du mode d'exercice. Et puis enfin, le dernier point, c'est donner au territoire des capacités de formation. Ça veut dire qu'il faut en effet projeter des encadrants, des universitaires aussi dans l'ensemble des territoires, dans des établissements qui ne sont pas universitaires, en travaillant aussi avec les IFSI, parce que l'universitarisation des formations paramédicales va aussi être une opportunité d'universitariser les territoires, puisque ces professionnels vont aussi pouvoir accéder à des carrières universitaires. Donc, c'est aussi une façon d'émanciper ces professions et de leur donner des perspectives intéressantes. Voilà un peu les idées. Après, je pense qu'on pourra en débattre pas mal.
Merci beaucoup, Emmanuel. Je passe la parole tout de suite à Guy Valencien et Philippe de Normandie pour les électrons. Guy, tu as la parole.
Alors, je pense que réellement, nous avons un type de formation qui n'est, comme il a été dit, qui n'est plus du tout adapté au monde d'aujourd'hui. Le milieu universitaire n'a pas fait sa mutation, il faut le dire. Et je crois que véritablement, il faut que l'on parte de la base, c'est-à-dire du bac, en prenant dans les différentes filières. Je vous rappelle qu'il y a 43 filières de bac, en comptant les bacs pro et les bacs techniques. Parce que dans un bac pro, je pense qu'un apprenti boucher pourrait faire un très bon chirurgien. Je suis désolé de le dire comme ça, mais pourquoi on ne va pas chercher dans tous les domaines du baccalauréat de prendre les meilleurs, et garçons et filles, et de les amener une année préparatoire globale où on aurait à la fois des infirmiers, les futurs médecins, les pharmaciens, les kinésies, les sages-femmes. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans des facultés de médecine. Ça n'a plus de sens. Il faut créer des écoles de santé. La faculté n'apprend pas un métier, elle apprend des connaissances. Et donc, il faut créer de vraies écoles qui nous apprennent. Moi, quand je suis sorti, comme tous les médecins qui sont là, je ne savais pas du tout ce qu'était la CARM, l'URSSAF, je ne savais pas ce que c'était qu'un médecin libéral, je ne savais pas du tout ce qu'était la haute autorité de santé qui n'existait pas du reste à l'époque. Enfin bref, les institutions, je ne savais pas qu'il y avait un conseiller santé auprès du président de la République, auprès du ministre. Enfin bref, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On nous balance, on apprend des connaissances de biologie, de pathologie, de thérapeutique, et ensuite on est mis sur le terrain sans rien connaître de la vie. C'est terrifiant. Donc, il faut absolument qu'on ait cette première année préparatoire qui pourrait se faire dans les lycées, dans un lycée sur deux, il y a 3500 lycées, on peut en prendre 1750, on aurait à former à peu près par an 50 000 personnels comme ça, ce qui fait des classes de 30 en les mélangeant tous. Et avec des stages, dès ce moment-là, des stages pratiques, il faut qu'ils aillent passer quelques semaines dans une officine de pharmacie, quelques semaines dans une maison de santé pluridisciplinaire, quelques semaines dans un laboratoire qui fait de la recherche, quelques semaines dans chez un industriel du médicament, quelques semaines chez un industriel des devices et des dispositifs médicaux, quelques semaines dans une institution publique de santé, une ARS ou une autre agence. Bref, qu'est-ce qu'on fait? Mais où est-on? Et en plus, on vous prend 10 ans, 12 ans d'études pour aboutir à quoi? À rien. Et donc, il faut réduire ensuite la durée des études. Et à partir de cette année préparatoire qui fait la première année de licence, on arrive à la licence où là, on peut être licencié en santé et avec le premier niveau qui peut être celui, disons, d'infirmier. Et si on veut poursuivre, eh bien, on peut poursuivre soit en médecine, soit en infirmerie en passant en infirmière de première ligne ou en IPA, soit en pharmacie, soit en kiné. Bref, et en ce qui concerne les masters, pourquoi est-ce qu'on attend l'internat pour savoir si on va être généraliste ou chirurgien ou psychiatre? C'est complètement délirant. 6 ans d'attente. Mais on est où? Il faut que dès l'entrée en quatrième année, on choisisse, quitte à avoir un droit hors mort. On peut se tromper, on a voulu être chirurgien, on sait que c'est pas ça. Ça voudrait dire du reste que la formation avant a été mal faite puisqu'elle ne m'a pas permis de me sélectionner. Et puis, ce master, on peut être maître chirurgien avant d'être docteur en chirurgie. Je ne comprends pas que l'on n'aille pas à une formation qui se réduise à 7 ans. En 7 ans, avec les moyens de la simulation actuelle, avec les données informatiques actuelles qui nous permettent d'aller traiter les cas les plus complexes en simulation, en équipe, tournant autour d'un pseudo-malade, hein, pour voir si on est bon ensemble ou pas. Enfin, je veux dire, les pilotes de ligne, on ne leur demande pas 10 ans d'études. Or, aujourd'hui, de plus en plus, on va travailler avec des systèmes experts qui vont nous faire avancer dans le brouillard. Quand vous regardez, quand on ne voit rien, quand le pilote ne voit rien, ce sont les instruments qui le dirigent. Et là encore, cette immense mutation du numérique, de l'intelligence artificielle, va totalement bouleverser les métiers au point, et j'ose le dire là pour la première fois, faudra-t-il encore des généralistes demain? Ne n'irons-nous pas vers le passage des infirmiers de première ligne et les IPA vers directement le spécialiste? C'est une vraie question à poser. Je n'ai pas la réponse, mais on doit la poser en toute franchise. La médecine interne, oui, mais vous savez qu'en médecine interne, les services eux-mêmes sont déjà ultra spécialisés dans certaines pathologies complexes. Faudra-t-il des généralistes? On dit le généraliste coordinateur, mais beaucoup d'autres peuvent coordonner. Demain, une directrice de soins pourrait être chef de service ou chef de pôle. Pourquoi faut-il que les universitaires comme moi aient sur la casquette l'obligation d'assurer de la recherche, de l'enseignement, de la clinique et du management? Mais c'est de la folie. Mais personne n'est capable de faire ça et on ne le fait pas. Donc que l'on choisisse deux valences. Je prends pour 5 ans, je suis nommé professeur, je prends 5 ans de clinique et de recherche, de clinique et d'enseignement et de recherche ou de management et de clinique. Et au bout de 5 ans, si je suis bon, ben je peux être remis sur le terrain ou moi-même, je peux changer et me mettre à faire un peu autre chose. Mais je pense qu'il faut revoir, mais de fond en comble, le cursus, il est totalement dégradé. Et la pauvre réforme qui est en train de faire un flop total, qui partait d'une bonne idée, c'est-à-dire de fait que les étudiants puissent choisir, même s'ils ont déjà fait une année ou deux ailleurs, venir en médecine, je trouve ça très bien. Mais d'une très belle idée, on a créé un monstre ingérable. Le passe, le lâche, le parcours suit, on ne s'y retrouve plus. Il faut abandonner ce système pour repartir sur des bases beaucoup plus saines de formation progressive de tous les corps de métier ensemble.
Merci Guy pour ce plaidoyer passionné, comme tu sais nous le faire toujours très bien. Et pour continuer la réflexion chez les électrons, Philippe de Normandie.
Bonjour. Il y a beaucoup de choses ont déjà été dites. Je voudrais insister sur quelques points.
On ne voit plus ta caméra.
Non, est-ce possible? C'est bon là, vous voyez?
Non. C'est bon. Voilà, là on te voit.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelques points. Moi, je voudrais insister sur quelques idées qui nous paraissent fortes dans nos discussions. Et c'est sûr que le sujet du sens est clé, et le sens, ça passe pas par la somme des connaissances techniques, connaissances techniques, ça se fait tout au long de la vie. Et donc, et vous l'avez plusieurs d'entre vous l'évoqué, ça nous re-questionne complètement sur quelles sont les compétences dont les personnes ont et les différents professionnels ont besoin. Donc, plutôt que cette somme de compétences techniques, le vrai drame que l'on a, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les universitaires ou en tout cas les formateurs sont plutôt évalués sur l'espèce de volume absurde de leur formation technique plutôt que de travailler sur les compétences. Qui dit travailler sur les compétences, ça veut dire, vous l'avez souligné, ça veut dire forcément beaucoup plus d'interdisciplinarité, ça veut dire forcément beaucoup plus de formation dans une vision holistique de la personne et donc forcément des formations avec les personnes à travers des notions de médiation en santé, de pair, enfin, il y a des expériences. Avec un élément clé, on a parlé de technologie dans la formation. Je pense qu'il y a des éléments également de révision de nos méthodes pédagogiques et regarder par exemple l'importance des notions comme le mime, la simulation, le mime, plutôt que ces formations absurdes dans lesquelles on met les gens devant leur bureau. Donc on a vraiment à repenser tout ce contenu dans cette interprofessionnalité et dans ces méthodes pédagogiques qui favorisent beaucoup plus une dimension très holistique de la formation, faire en sorte que des gens sont capables, finalement, finalement, qu'est-ce qu'on demande aux professionnels ? C'est d'avoir les bons points de repère, le bon questionnement, savoir avec qui je vais travailler, et de temps en temps, effectivement, dans son domaine, d'être le pro-technique, mais pas dans tous les domaines, c'est absolument absurde. Donc, ce domaine de compétences par rapport aux connaissances, je pense qu'on en a tous d'accord. Ensuite, je pense qu'il y a un deuxième point, en tout cas, nous pensons, c'est que il faudrait responsabiliser également beaucoup plus les enseignants. Aujourd'hui, une directrice, enfin je parle sous ton contrôle, Françoise, une directrice d'école infirmière, si elle a 20% de ses élèves infirmières qui ne vont pas prendre des postes d'infirmière après, mais elle a toujours le même budget et surtout, elle a toujours le même... elle et son équipe, ça ne change rien dans leur vie. Donc, comment on est capable de rentrer dans un système où on intéresserait également beaucoup plus tout le circuit, entre guillemets, c'est pareil pour les universitaires, pour faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus intéressés sur le résultat. Parce que finalement, enfin, franchement, qui évalue aujourd'hui réellement ce qui se passe en matière de formation ? Donc, on a besoin d'avoir une évaluation qui soit, à mon avis, plus rigoureuse et avec des vrais objectifs. Moi, je propose qu'on y ait des vrais CEPOM pour le secteur de la formation qui impose un certain nombre de règles du jeu et d'objectifs qui soient des objectifs qui soient qualifiés. Enfin, je pense que, et on parlait de ce secteur de formation, on a une vraie réflexion pour remettre du lien social. On est des formations qui, au jour d'aujourd'hui, on le voit en médecine, c'est plutôt les enfants des cadres sup et plutôt des grandes villes. Et on a un vrai sujet également pour les pauvres aides-soignantes qu'on laisse à vie aides-soignantes parce que la pompe de promotion professionnelle ne fonctionne plus. Donc, on a un enjeu majeur, comment on redonne cette égalité sociale dans nos secteurs de formation. Et quand on parle, par exemple, des déserts médicaux, est-ce que vous avez vu la dernière enquête de l'Adresse ? Absolument passionnante. L'élément clé différenciant qui fait que quelqu'un va retourner dans son pays, dans son bled, là, comme on dit dans mon fin fond de la Normandie, c'est parce qu'il est issu également de ce bled, mais pas parce qu'on va imposer la personne de la ville de venir s'installer. Et donc, comment on est capable, et c'est pareil pour les élèves infirmières, pour les kinés, etc. On devrait également penser comment on est capable de mieux accompagner des gens qui sont issus de territoires sur lesquels ils ne sont pas forcément favorisés, sur lesquels ces territoires sont aujourd'hui dans une désertification pour redonner envie à des personnes de revenir vivre dans leur territoire. Mais nous avons, par nos concentrations, et plusieurs l'ont dit, nos concentrations au même endroit des dispositifs de formation, fait que on a à creuser ces inégalités sociales, ces inégalités territoriales. Donc là encore, on a un champ important à repenser dans nos dispositifs de formation. Et enfin, mais plusieurs d'entre vous, on l'a dit, il faut que ce soit pendant le secteur de la formation qu'on fasse la révolution des technologies, du digital, qui re-questionne fondamentalement les organisations. Mais on le voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de sujets. C'est les jeunes qui, dans nos dispositifs de formation, si on le fait de façon intelligente, sont capables ensuite d'aller réinterroger le système et sont capables de faire en sorte que le système avance. Les vieux ne sont pas forcément toujours les plus à même d'aller réinterroger les organisations. Donc, comment on est capable de bousculer le système avec les jeunes sans qu'ils soient castrés par les vieux ? Et donc, quel espace de liberté on leur donne ? Et quand on revoit aujourd'hui que leur fonctionnement au niveau des stages où on utilise les jeunes plutôt en bouche-trou que plutôt en des gens ayant certes des choses à apprendre, mais également à apporter, ce qui repose complètement nos modes d'organisation de management, et bien finalement, on fait des gens déçus et on a 20 à 30% de gens qui abandonnent dans les études. Donc voilà quelques points, mais je pense qu'ils recoupent largement, qui sont complémentaires à ce qui a été dit.
Merci beaucoup, Philippe, pour, cette prise de parole. On peut débattre un peu entre nous avant de poser des questions, avant que nos invités puissent poser des questions. Pour poser une question, le plus simple d'ailleurs, si c'est possible, c'est de m'alerter en allumant votre petite main jaune, vous savez, qui est dans la barre d'outils. Comme ça, j'aurai la possibilité de vous donner la parole dans l'ordre d'apparition des mains. Et on respectera, voilà, par exemple, il y a Sophie qui voudra prendre la parole. Alors, je crois qu'il y avait Guy et Emmanuel qui voulaient intervenir.
Je voulais juste dire juste une incidente, que c'est, et pour rejoindre ce qui a déjà été dit, c'est l'importance d'un apprentissage de la consultation. C'est absolument dramatique aujourd'hui. J'ai fait passer à des externes un examen où j'étais le vieux prostatique. Et eux, je les mettais au bureau en les ayant tués, l'urologue que je viens voir. Et moi, j'arrivais tout tremblant avec mon dossier. Et j'étais très frappé que la jeune génération ne te regarde plus. Elle regarde les documents. Elle regarde, elle prend tout de suite, elle te dit bonjour, et elle ne te donne pas 10 secondes pour t'interrompre, et ensuite, donnez-moi votre scanner, donnez-moi vos examens biologiques. Ils baissent la tête comme ça, ils plongent les nez dans le dossier, et à la fin, ils disent, bon, bah, écoutez, je crois qu'il y a peut-être un petit cancer, il va falloir prévoir une biopsie, voyez ma secrétaire, terminé. Et quand tu repasses la vidéo de cet entretien à ces étudiants, ils sont eux-mêmes affolés de voir combien ils ont été incapables d'être dans l'empathie. Une consultation, c'est lent. Si on ne laisse pas le malade s'exprimer longtemps, même s'il y a parfois, il part dans des traverses qui nous apparaissent curieuses, elles sont très utiles. Car aujourd'hui, méfions-nous, le médecin ne connaît plus l'environnement du patient. Ceux qui le connaissent, ce sont les infirmiers qui veulent parfois 3-4 fois par jour chez le même, à des heures différentes. Mais le médecin ne connaît plus. Il consulte dans des bureaux. On ne sait plus l'environnement des patients. Donc c'est essentiel d'être dans cette donne psychologique d'accueil et d'écoute.
Emmanuel, vous vouliez prendre la parole?
Oui, juste là, pour rebondir sur 2-3 remarques. En effet, je crois qu'il faut former les futurs professionnels de santé dans le mode d'exercice qu'ils auront. Sinon, ils sont perdus, en effet, quand ils se retrouvent jeunes diplômés, s'ils n'ont pas compris le système, s'ils ne se sont pas eux-mêmes emparés finalement du mode d'exercice qu'ils ont envie d'avoir, ils sont décalés. Et je crois beaucoup, en effet, à l'impact des jeunes générations pour modifier le système. C'est eux qui vont le changer. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on les accompagne dans leur formation là-dessus aussi. Donc, ça bouge quand même. On ne peut pas dire qu'il y a des choses. Les maisons de santé pluriprofessionnelles ont quand même permis de faire des choses, de réorganiser. Et les jeunes adhèrent à ce système où ils ont un exercice collectif. Sur la place du médecin généraliste, moi, je ne pense pas que les spécialistes pourront répondre directement aux problèmes médicaux en interagissant directement avec une infirmière de pratique avancée. Après, c'est juste de trouver le bon équilibre entre le médecin généraliste et les autres professionnels qui vont finalement accompagner le médecin généraliste, qui, lui, pourra référer au médecin spécialiste. Et le dernier point, c'est sur le digital. Oui, bien sûr, je suis complètement convaincu que ça va modifier les pratiques et qu'il faut l'accompagner, mais il faut juste qu'on fasse attention à ce que ça ne devienne pas un alibi pour répondre aux déserts médicaux et se dédouaner de la responsabilité quand même de chacun vis-à-vis de l'accès aux soins. Il ne faut pas que ce soit la solution miracle pour répondre à la problématique d'accès aux soins.
Françoise.
Oui, merci. Oui, moi aussi, je voulais réagir à 2-3 points. Il ne faut pas oublier qu'on a une problématique majeure, c'est celle de la question des stages, et qui est une problématique fondamentale. Parce que, Philippe, je veux bien croire que ce soit les directrices d'IFSI qui dégoûtent les élèves de continuer, je crois plutôt que c'est les stages. Et je pense qu'on a la chance d'avoir dans notre pays des formations de santé qui sont totalement en alternance. Hein, c'est le seul métier où on est formé comme ça. Et que le problème, c'est que cette alternance, elle est de plus en plus difficile. comment est-ce que, d'ailleurs, on forme les professionnels de santé à accueillir les stagiaires, et pas que dans les hôpitaux, mais aussi dans les hôpitaux, et l'ensemble des professionnels. Et c'est vraiment un sujet massif. Hein. Je vous rappelle qu'on a augmenté de 20% le nombre de formations infirmières et qu'on n'a pas augmenté de 60%, comme il le faudrait, les places de stage. Donc, un vrai enjeu. Et cette question de l'alternance, je pense qu'elle doit aussi, dans un certain nombre, ce n'est pas le cas dans les études médicales, mais dans les études paramédicales, les enseignants ne sont pas des bi-appartenants. Et je trouve que pour préparer des professionnels de santé au futur de la santé, ou même à l'actualisation, même s'ils sont très engagés, même s'ils voient comment ça se passe dans les stages, etc., c'est quand même très dommage que ça soit pas, qu'ils soient pas, ils aient pas une partie de leur activité professionnelle qui se fasse dans le soin. Et enfin, sur la question des territoires, alors nous, on a ouvert des premières années à Agen, enfin à Pau, enfin de médecine, maintenant des PASS et des LAS, dans des territoires très éloignés. Je ne suis pas sûre que les gens retournent forcément là où ils sont nés. Il y en a qui y retournent. En tout cas, je suis sûre d'une chose, c'est que si on veut révolutionner les études de médecine, si on veut aller chercher ceux qui feront les grandes découvertes demain et ceux qui révolutionneront les choses, ce n'est pas dans les cœurs de nos villes avec les enfants de médecins et de cadres sup, c'est plutôt en allant les chercher effectivement dans des zones rurales où a priori les gens n'imaginent même pas qu'ils pourraient aller faire des premières études de santé dans les capitales régionales. Et que ça, c'est un enjeu massif. Et quand on disait l'excellence dans les lycées et dans les IFSI aussi, c'est parce que ça, c'est des endroits où des gens vont aller se former en proximité parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller loin. Et c'est là qu'on va pêcher, je pense, des gens qui ensuite seront les grands chercheurs de demain. Il ne faut pas oublier qu'on ne révolutionne que quand on a intérêt à révolutionner. Donc, cette question de la territorialisation des études, des formations et des décisions, il me semble, elle est essentielle pour ça.
Merci Françoise. J'ai juste deux cathédrales que, alors je peux me permettre parce que en tant qu'animateur du débat, j'ai tous les droits. Donc je peux me permettre de. J'ai deux cathédrales qui me semblent boucher l'horizon et l'avenir. C'est le dogme du médecin qui gère le système de santé, et le deuxième, le rôle de l'hôpital qui est la structure, la colonne vertébrale absolument paléolithique et figé, qui fait que la rigidité arthritique du système bloque en particulier cette pénétration dans les territoires. Et j'aimerais bien avoir votre, je ne veux pas une réponse tout de suite, mais au cours de votre, de vos discussions et de nos discussions, j'aimerais bien avoir vos réflexions par rapport à ça. Et je vais passer tout de suite la parole à Jean-Paul. Voilà, gardez en tête mes deux cathédrales que peut-être que je voudrais voir un peu remises en tremblement sur leur base. Jean-Paul.
Avant de répondre à ta question, je voulais attirer votre attention sur le fait que le Monde du 16 février fait mention d'une initiative de la faculté de médecine de Lyon-Est qui développe un enseignement sur l'importance de l'empathie dans la prise en charge des patients précaires et sociaux. Et je reprends l'idée d'Emmanuel Touzé, si on fait confiance aux acteurs de terrain, il y a des initiatives qui se mettent en œuvre, et heureusement, ils n'ont pas demandé l'autorisation aux différentes instances nationales s'il fallait le faire. Et donc, je pense que c'est un point à signaler en disant que les acteurs de terrain arrivent mieux à cerner cette problématique. Je voudrais rajouter, parce que c'est ce que j'ai compris dans ma carrière, je voudrais rendre hommage à mes patrons qui m'ont formé, et à Guy qui m'a formé aussi, mais le Max Dubernard, avec qui j'ai une amitié très sincère, qui m'a expliqué que quand même, dans l'exercice que vous exercez, je ne suis pas médecin, mais j'ai appris une seule chose, c'est la transmission. Quand même. Et le stage, c'est le lieu de la transmission par excellence. Et je pense qu'il y a à revoir la répartition entre le stage et les épreuves théoriques et les épreuves pratiques qu'il faut mettre en œuvre. Alors, par rapport au dogme que tu as signalé, je vais te donner deux éléments de réflexion. La première, c'est que les Français aiment bien les structures. Et face à un problème, on aime bien mettre une structure. Alors, on met comme structure le médecin qui coordonne tout et à l'hôpital, l'hôpital qui coordonne tout. Or, on sait qu'on ne va pas à l'hôpital pour l'hôpital, on va à l'hôpital parce qu'il y a des compétences à l'hôpital. La preuve, c'est que quand les compétences médicales ou soignantes s'en vont de l'hôpital, ben, l'hôpital, il ferme. D'ailleurs, je le dis en passant, on n'a jamais fermé des lits pour fermer des lits. On a fermé des lits parce qu'il y avait l'évolution du progrès médical, mais il y avait aussi le fait que parfois, les médecins n'étaient pas là. Donc, et ça, c'est des dogmes de la pensée structuraliste française. Mais ce n'est pas propre à la médecine, c'est propre à l'ensemble de notre système de pensée. On aime bien structurer, on aime bien les jardins à la française, alors on a créé, on est content de dire, ouais, il y a deux écoles d'infirmières par département, ou trois, ou quatre, ou cinq, etc. Parce qu'on aime bien cet esprit. Et donc, il faut réinventer. Et le gros problème que l'on a, et la médecine n'est pas uniquement concernée à cette problématique, c'est comment faire vivre la pluralité dans l'unité. Ce n'est pas moi qui le disais, c'est Pascal, alors je vais reciter encore un Auvergnat, tout ce qui est unité est tyrannie, tout ce qui est pluralité est désordre. Et le gros problème de fond, il est là, c'est comment on peut construire un modèle dans lequel on accepte d'abord des inégalités pour avoir plus d'équité, mais aussi comment on intègre la pluridisciplinarité des compétences avec l'unicité de la prise en charge.
Alors, on va passer aux questions de la salle maintenant. Et la première est pour Sophie, Sophie Beaupère, qui est donc déléguée générale d'Unicancer. Sophie, la parole est à toi.
Je mets ma caméra. Vous m'entendez ?
Ouais, tout va bien.
Merci. Oui, moi, je voulais rebondir, peut-être plus que des questions, c'est aussi des remarques sur ce qui m'a le plus frappé dans les propos qu'ont été dits, parce que en tant que finalement représentant d'une catégorie d'établissement, mais c'est des choses dont on discute beaucoup d'ailleurs entre fédérations, et heureusement, il y a un certain consensus d'ailleurs, et il faut quand même le souligner. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs choses. Il y a une crise de court terme aujourd'hui qui est quand même très palpable, avec un taux d'absentéisme extrêmement fort post-Covid que l'on continue à subir et qui interroge d'ailleurs, évidemment, avec l'intérim notamment paramédical qui se développe fortement, par exemple, en Ile-de-France, et des besoins de court terme, une crise à résoudre. Et je pense que cette crise, elle est bien sûr multifactorielle. Sans doute, le contexte le favorise, mais le bilan de Parcoursup est totalement urgent. Ça a été évoqué. On en avait discuté d'ailleurs dans le cadre des électrons. On n'a pas forcément de chiffres au niveau national très précis, mais on sent bien quand même que Parcoursup engendre un taux de défection très important au cours de la formation dans les IFSI, en tout cas, c'est la perception des établissements. Je vois que Françoise réagit, qui fait qu'on a plus de difficultés aujourd'hui à avoir le nombre suffisant de professionnels dans nos établissements. Et en tout cas, un bilan justement objectif est fondamental, parce que c'est en tout cas la perception qu'ont les établissements. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est quand même une chose de court terme. Deuxième chose, finalement, aussi de court terme, et là, il y a eu une position de toutes les fédés, ce qui est quand même rare, donc je tiens à le souligner, avec une note qui a été faite au ministère du Travail et au ministère de la Santé depuis un an et demi, qui appelait des vœux des fédérations et des établissements qu'elles représentent à plusieurs choses sur, le volet notamment paramédical. La volonté de simplifier l'encadrement réglementaire des formations pour stimuler l'innovation pédagogique, notamment réviser les référentiels, inclure dans les référentiels la possibilité de former en ligne pour que les contenus soient plus attractifs, de décloisonner les sections de formation, d'associer plusieurs profils d'apprenants, la construction de passerelles aussi du métier d'aide-soignant, ça a été évoqué, vers celui d'IDE, en utilisant les outils de l'alternance, bien sûr, et de la formation en situation de travail, l'amélioration, pour finir et pour faire court, de l'efficience des dispositifs de VAE, par une hausse du nombre de jurys de VAE. Donc un certain nombre de mesures extrêmement concrètes qui nous semblent de nature à pouvoir permettre de faire face quand même aux besoins, et ça c'est aussi un des sujets plus de long terme, le fait d'avoir une vision pluriannuelle sur les besoins à venir. C'est vrai qu'on estimait à la louche dans cette note qu'on avait faite qu'il y aurait besoin de 100 000 soignants en plus chaque année pour faire face justement au départ à la retraite, aux évolutions démographiques. Et donc, c'est pour ça qu'il nous paraît urgent vraiment de pouvoir faire ces mesures de simplification. Donc, c'est bien sûr pour des propositions à soumettre au débat. Et puis, ça sous-tend aussi une vision qui est de long terme. Ça a été dit, l'empathie, moi, c'est vrai que je suis frappée, bah, évidemment, en cancéro. De plus en plus, il y a des formations qui se développent, interactives, et certaines universités, effectivement, ont plus développé que d'autres, avec notamment la mise en situation avec une pratique théâtrale pour les médecins, qui est fondamentale, je pense, pour pouvoir, justement, comme Guy l'a évoqué, leur permettre de travailler sur l'empathie dans un environnement qui est en même temps beaucoup plus technologique et donc cela va étroitement de pair. Il faut renforcer et travailler le lien humain dans un environnement qui est extrêmement digitalisé et c'est donc une priorité. L'autre point que je voulais souligner, notamment que moi je vois en cancéro, c'est effectivement l'urgence, ça a été dit, de développer les pratiques avancées, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des freins. Les infirmières de pratique avancée, c'est fondamental dans un certain nombre de disciplines. De toute façon, on n'a pas le choix, compte tenu de la réalité de la démographie médicale et de l'évolution technologique, comme Guy l'a souligné. Et il est urgent de le faire dans d'autres disciplines, notamment par exemple les manipulateurs radio. Fondamental pour qu'on puisse pouvoir absorber les besoins et l'activité que l'on connaît aujourd'hui. La simulation et les serious games, ça fonctionne et c'est ça qu'il faut développer pour arriver à convaincre les jeunes, je pense, tout simplement. Ce que je voulais dire aussi pour finir, c'est qu'on voit aussi qu'il y a un gros besoin de sensibiliser vraiment justement les jeunes, et je pense notamment les médecins et pas seulement les infirmiers, justement à ce qu'est la réalité du progrès technique. Et dès le début des formations, ça a été dit d'ailleurs dans les orientations d'UCSIS, aux évolutions en termes d'IA et de data, et pouvoir vraiment avoir des connaissances qui soient les plus up-to-date possibles pour faire avancer notamment la recherche et des programmes ambitieux. Et puis aussi, je trouve qu'il y a un lien entre formation et certification professionnelle tout au long de la vie. Parce que comme ça a été dit, je crois que c'était par M. Segade, aujourd'hui, il y a une complexité des métiers, une hyperspécialisation, et ça doit s'accompagner d'une certification professionnelle qui, en plus, est quelque chose d'attractif, qui donne un sens aux professionnels. Et je pense qu'on peut encore développer cela davantage.
Merci, Sophie. Je pense qu'Emmanuel doit intervenir.
Peut-être une réponse rapide sur les formations paramédicales. On a quand même dans la loi un texte qui nous permet de faire des expérimentations et beaucoup d'universités et beaucoup d'instituts de formation paramédicaux se sont engagés dans des expérimentations d'intégration à l'université de ces formations. Et dans ce cadre-là, on peut complètement revoir les référentiels, ce qui permet de mixer les publics. Et par exemple, enfin, quand je dis complètement, c'est-à-dire que bien sûr la partie cœur de métier, elle doit être réservé à chaque profession, mais on arrive à mixer les publics. Et par exemple, chez nous, on a universitarisé l'ensemble des formations paramédicales et il y a chaque année, ils ont des unités d'enseignement qui sont communes parce qu'il y a un certain nombre de connaissances et de compétences qui sont communes à tous ces professionnels de santé. Donc, on a quand même aujourd'hui des outils qui nous permettent de faire des choses innovantes dans les formations pour répondre à ces enjeux.
Alors, question suivante, c'est Benoît Péricard. Benoît, si tu veux prendre la parole, tu peux mettre la caméra.
Pour une fois, je vais être court, puisque avec Lisa, avec les électrons, avec le Krafts, dont je suis proche aussi, donc toutes les idées que j'ai. Mais je voudrais presque faire une seule question à Françoise, parce que j'ai vécu le début de la régionalisation des formations. Je me demande si maintenant, et ce que j'entends dans tous nos débats là, c'est quand même un appel à la territorialisation, à une liberté de manœuvre, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment une deuxième étape? Jean-Paul, on sacrifie encore une fois un peu au structuralisme, mais il y aurait une deuxième étape de la régionalisation qui serait que les régions prennent encore plus la main sur... non seulement sur ce qui a été au départ les écoles d'infirmières, les budgets, tout ça, les discussions, mais y compris sur en partie les contenus. Et Emmanuel vient de le dire à l'instant, il y a des possibilités aujourd'hui, mais je pense que notre pensée jacobine empêche aujourd'hui. Moi, je pense qu'être infirmière dans un environnement d'Empaca où traditionnellement il y avait beaucoup d'infirmières libérales et d'être infirmière dans le nord de la France où le tissu hospitalier est beaucoup plus fort, c'est pas la même chose. C'est pas le même positionnement dans le système de santé. Et je pense que seules les régions sont à même de saisir cette diversité. Et je crois qu'il y a l'espace, et aujourd'hui peut-être le temps avec l'élection présidentielle, pour on a vu bien avec la loi 4D qui a quand même été, bon, disons, assez lamentable, elle s'est terminée dans des rien du tout. Là, on cherche des nouveaux espaces de régionalisation. Là, on a un vrai espace qui pourrait permettre d'assouplir et de moderniser et de rendre plus le système. Si les pays du Nord, dont on fait beaucoup mention, réussissent, c'est aussi parce qu'ils ont un maillage de responsabilité territoriale qui est beaucoup plus souple que le nôtre. Voilà, donc une deuxième étape de la régionalisation des professions. Est-ce que les régions sont prêtes à le faire? Parce qu'on dit souvent, oui, mais les régions, non, elles ne veulent pas le faire, elles y vont un peu à reculons et tout ça. Moi, je voudrais que les régions, on a eu un débat il y a quelque temps avec quelqu'un d'une autre région, une vice-présidente, j'ai trouvé qu'elle était effectivement un peu tiède. Et je pense qu'il faut que les élus régionaux qui ont cette responsabilité s'engagent vraiment, comme vous l'avez fait tout à l'heure, Françoise, en montrant que c'est possible et que non seulement c'est possible, mais c'est ça la solution. Enfin, c'est une des solutions.
Voilà. Je vois de qui tu veux parler, c'est que ça concerne une région qui m'est chère. Alors, Françoise.
Exactement. Je préfère le discours d'aujourd'hui, pour être tout à fait clair.
Alors, est-ce qu'on veut s'occuper des programmes? Moi, je dirais que je crois que l'enjeu pour les régions et pour cette... Alors, de temps en temps, on en a très envie. Je vois, quand on a une région comme la nôtre, on est en train de s'engager massivement sur les questions de prévention, de santé environnement, etc. On a très, très envie, évidemment, de renforcer le volet prévention. Et quand je dis bien prévention, c'est bien prévention, hein, je ne parle pas de dépistage. Prévention, santé environnement, etc., des formations qu'on pilote. Et je pense qu'on pourrait. Après, les universités, je pense que c'est une question de partenariat université-région sur ce sujet-là, et qu'effectivement, il y a des possibilités. Et d'ailleurs, dans ce que disait Emmanuel Touzé tout à l'heure, je crois que ce qui a été fait en termes d'innovation sur les formations, sur les troncs communs en particulier dans les formations, mes souvenirs sont bons des dossiers que j'avais vus passer, les régions sont très investies. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a à apprendre de plus en plus et qu'on peut apprendre mieux depuis que les universités sont autonomes. C'est comment universités et régions, on travaille ensemble, avec bien sûr les ARS aussi, mais sur les besoins et sur les façons de travailler. Et il n'y a que là qu'on pourra faire les programmes, parce que les régions, nous-mêmes, on n'a pas les compétences en interne pour savoir ce qu'il faut faire dans un programme de santé. Par contre, effectivement, sur des questions comme celles dont je parlais, on peut avoir la volonté d'aller plus loin et du coup de le travailler en partenariat avec les universités, c'est évident.
Mais c'est vrai que ces questions-là sont essentielles, et quand on s'aperçoit, par exemple, c'est pour faire référence au dernier CHAM, que les présidents de syndicats de médecins libéraux ne savent pas ce que c'est que le concept de One Health, on est un peu inquiet sur le plan de la connaissance des étudiants, sur la santé globale, sur toutes ces questions qui sont absolument essentielles et qui sont les questions de demain. Je ne vois pas au niveau de l'université quelque chose qui est fait pour leur apporter cette dimension, qui est une dimension sociétale, qui va toucher à la responsabilité populationnelle, qui va toucher à l'attractivité des territoires. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que quand vous faites une école de commerce, on vous apprend l'écosystème dans lequel vous existez, vous êtes en médecine, moi je l'ai fait un jour devant un amphithéâtre d'étudiants en médecine, je leur ai demandé quelles étaient les trois directions centrales du ministère de la Santé, et personne n'a été capable de me citer ni la DGS, ni la DGOS, enfin, à l'époque c'était la DHOS, ni la DSS, donc il y a une méconnaissance absolument totale de l'écosystème dans lequel les professionnels vivent, et comme le disait Guy, on sort de ses études, on ne sait pas véritablement dans quel monde on vit, quoi. On n'a pas de vision du monde, on a une vision très 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 de connaissances, mais on n'a pas une vision holistique du monde dans lequel on va et de la profession dans laquelle on va jouer sa vie. Ça reste très fantasmagorique quand on est médecin généraliste et qu'on va sortir de la fac. Hein, on a un peu l'impression d'être lâché dans le grand bain. Question de Olivier Laplanche. Et ça me fait plaisir qu'Olivier prenne la parole, parce que Olivier, il représente les associations de malades, et et les personnes qui sont concernées. Donc, au premier rang des utilisateurs, des professionnels qu'on va former demain.
Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Merci, Olivier. Et merci aux intervenants. Donc, c'est à mon petit niveau. Voilà, je travaille pour l'association Camille Sport et Cancer et je suis vraiment très intéressé par tout ce qui a pu être dit ce soir. Merci aux intervenants. Quand je dis tout ce qui a été dit, c'est, il y a des choses qui nous tiennent à cœur. C'est cette approche holistique, les parcours pluridisciplinaires, finalement, mettre fin à cette structure archaïque de la profession médicale que Fritzson nous décrivait déjà il y a 40 ans et plus. Et mes questions face à cette volonté positive de décloisonner de nos intervenants, j'ai trois questions qui sont liées. Finalement, comment intégrer véritablement et durablement les connaissances et les compétences et les acteurs des préventions et des programmes qui agissent sur les comportements des patients, que ce soit l'activité physique thérapeutique ou d'autres approches validées. Comment les acteurs historiques et indéniablement compétents du tout curatif peuvent aider à s'éloigner du tout curatif dans leur organisation, dans leur formation? Et donc, comment modifier les cursus dans la théorie et la pratique pour que l'ensemble des professionnels de santé puissent facilement parler, sensibiliser, prescrire, orienter, mais aussi comprendre les bilans et les évaluations des approches complémentaires validées? Quand on échange avec beaucoup de médecins qui savent à peu près prescrire l'activité physique, ils sont les premiers à nous dire, vous savez, quand on est sur d'autres bilans d'approches, soit psychologiques, soit diététiques, soit d'autres professions connexes, on ne sait même pas lire les bilans, on ne les lit pas et on fait confiance. Voilà, merci.
Qu'est-ce qui veut répondre? Guy, tu veux répondre?
Non, mais c'est une bonne question. Quand un médecin envoie un malade chez le kiné, il ne sait pas du tout ce qu'il va lui faire. C'est exactement ça. Alors, on ne demande pas à ce que le médecin sache tout, bien évidemment. Je pense que la confiance est là aussi importante, mais c'est un vrai débat. Et je pense que dans les études, notamment, on devrait avoir obligatoirement un certain nombre de professionnels de terrain qui viennent nous expliquer ce qu'ils font. Ne serait-ce que l'avocat. Un chirurgien comme moi, c'est quand même 7 procès en moyenne, 7 procès dans sa vie active. En moyenne. Donc, on aimerait bien savoir comment ça se passe. Tu vois. Pareil pour un tas de domaines où on devrait être informé, on devrait pouvoir poser les questions. Et je rejoins tout à fait cela. Il faut casser le système. Il faut sortir de nos connaissances que l'on peut en plus acquérir tout au long de la vie sur Internet, comme on est là en train de le faire. Donc, arrêtons ce cursus débile, vraiment. Je rejoins tout à fait cette demande des associations de patients. J'en suis très, très touché. Voilà.
Emmanuel,
un mot? Oui, juste en complément, je pense qu'en effet, il faut arrêter de penser que le médecin, il sait tout, qu'il peut tout prescrire et que tout doit passer par lui. Je pense que, voilà, à partir du moment où on définit des façons de coopérer entre différents professionnels de santé, il faut que chacun sache qui fait quoi. S'il y a des missions qui sont déléguées à d'autres, on fait confiance, ils le font mieux que nous. Et ça ne sert à rien que tout passe par le médecin. En fait, il est noyé dans des trucs comme ça où, de toute façon, il ne sait même pas ce qu'il faut écrire. Donc, je suis tout à fait d'accord.
Olivier, juste un incident. Moi, je suis de ceux qui considèrent qu'il ne faut pas augmenter tant que ça le nombre de médecins. C'est une erreur fondamentale. Il faut monter en puissance les infirmiers vers des niveaux master avec plus de responsabilités et de prescriptions possibles. Mais ne pas augmenter de façon indéfinie les médecins. On est ridicule, on manque de médecins. Non, on a une désorganisation du système. Ce n'est pas un manque de médecins, c'est une désorganisation du système. On l'a bien dit, dans la Creuse, il y a moins de toubibs. Vous le dites vous-même, il y a beaucoup d'infirmiers. Bon, alors, est-ce qu'il y a plus de morts dans la Creuse en ce moment qu'à Paris 7e? Ah oui. J'aimerais bien savoir. Mais non, mais posons la question directement. Y a-t-il plus de sinistralité dans la Creuse qu'à Paris 7e ou Neuilly, Auteuil, Passy?
Probablement oui, quand même.
Vous n'en savez rien. Nous n'en savons rien.
Si les indicateurs de santé ne sont pas du tout les mêmes.
Non, c'est clair.
On les a regardés, c'est ma région, donc je les ai un peu regardés. Je vous rassure, c'est pas la même chose. Mais ce n'est pas que dû aux médecins. Hein.
On est d'accord, c'est un sujet de nombre. Mais bon, il y a un sujet de nombre, mais si on n'organise pas le système, le nombre, on pourra continuer à l'augmenter, ça, on n'améliorera pas la répartition et l'accès aux soins. On est d'accord.
Exactement.
Mais il faut travailler les deux en même temps.
Alors, on a une question. La question suivante, c'est Béatrice Noëlec. Donc, Béatrice est déléguée générale de la Fédération de l'hospitalisation privée, la FHP. Béatrice?
Oui, merci Olivier. Ta caméra. Merci. D'accord, si tu veux.
Si tu veux.
Je ne peux rien te refuser.
déposer ta question.
Voilà, je pense que c'est un enchaînement. Merci beaucoup, Olivier. D'abord, effectivement, 100% d'accord avec ce qu'a dit Sophie Beaupère. Hein. C'est vrai que ce sont des enjeux sur lesquels on travaille beaucoup entre fédérations de tout statut, au regard notamment, effectivement, des situations de pénurie chronique, notamment sur les professionnels paramédicaux auxquels nous sommes confrontés, et évidemment que la crise n'a pas déclenché, hein, c'était quelque chose de latent, mais que, sur lequel elle a mis effectivement un coup de projecteur assez saillant. Moi, je voulais juste rajouter à tout ce que vous avez dit, qui était vraiment passionnant, un élément de débat qui est l'élément, je dirais, culturel et de représentation. Aujourd'hui, dans les paramédicaux, dans les aides-soignants et aides-soignantes, il y a 10% d'hommes. C'est 15% chez les infirmiers. Et je pense que vraiment, on ne remédiera pas aux pénuries dans l'avenir si on n'a pas aussi, sur le plan culturel, une montée en mixité des métiers du soin, si on n'a pas une rupture finalement avec cette espèce de déterminisme essentialiste un peu agaçant qui fait que finalement, on évince par nos représentations les jeunes garçons des métiers du care et du soin qui sont pourtant, si on veut bâtir la société du soin de demain, absolument fondamentaux. Si on ne leur dit pas aussi que ces métiers-là, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, que sais-je encore, sont également faits pour eux, on va pas effectivement, on aura beau mettre en place des systèmes très très ambitieux, si on continue à recruter dans ces métiers-là parmi la moitié de l'humanité, on n'arrivera à rien. Donc moi, je suis très sensible à cette notion de sensibilisation, d'éducation. C'est très compliqué, ce sont des représentations très ancrées. On l'a réussi pour d'autres professions, et ça va dans les deux sens, ça, la montée en mixité, hein, d'ailleurs. Hein, ça va homme-femme et femme-homme, naturellement. Mais je pense que là-dessus, on doit vraiment s'interroger et travailler sur ces enjeux, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose, et on voit bien dans le wording, pour parler en bon français, que nous employons tous, spontanément, on dit infirmière, on crée aussi comme ça, finalement, des espèces d'habitudes sociologiquement très ancrées, et je pense qu'il y a, c'est aussi cette dimension culturelle et de représentation, quelque chose sur lequel il faut collectivement, à la fois à l'échelle familiale, sociale et éducative et pédagogique, travailler. Voilà, c'était l'élément complémentaire, et merci beaucoup en tout cas pour toutes vos interventions.
Béatrice, l'ancienne assistante sociale que je suis, applaudit à deux mains.
je te salue, Benoît.
Il y a Jean-Paul qui voulait intervenir.
Non, c'est bon.
Alors, je passe la parole tout de suite à Stéphane Le Boulaire, qui est donc le président de l'ISA. Stéphane.
Oui, bonjour. Je vais rassurer Benoît s'il a besoin de l'être. Effectivement, quand on met de l'argent sur la table, beaucoup, beaucoup d'argent pour créer des milliers de places de formation en IFSI et pour les aides-soignants, on met l'argent aux régions et puis on va donner des responsabilités complémentaires aux régions. Parce que ça paraît raisonnable, alors pas seulement parce qu'on a comme interlocutrice Françoise, qui est évidemment toujours agréable, mais aussi parce qu'il y a quelques défaillances de l'autre côté, on va dire, quand on raisonne État. Deux exemples parmi d'autres, parmi cent autres, on trois pour le plaisir. D'abord, comme l'a dit Françoise, l'affaire des stages, l'accueil en stage. Il paraît assez raisonnable, effectivement, quand on augmente de 20% les quotas, d'augmenter à due proportion les places de stage, simplement. Depuis un an que ce mouvement est engagé, rien n'a été fait du côté de l'avenue Duquesne en la matière. Premier exemple. Deuxième exemple, le financement du bâti, parce que voilà, il se trouve que les étudiants en soins infirmiers, je préfère parler d'étudiants que d'élèves, les étudiants en soins infirmiers, il est bon de leur donner des conditions d'accueil décentes. Et si vous trouvez un hôpital qui a fait des efforts sur ses propres deniers depuis des décennies pour les bâtiments de formation, vous me le présenterez. On a mis 19 milliards sur le Ségur immobilier, il n'y a pas un sou qui n'a été dans les bâtiments de formation. Donc, on va remettre au pot, on va mettre l'argent aux régions, on va remettre au pot et les régions feront le nécessaire. Troisième exemple, on était dans un système stable où, en gros, les quotas étaient figés. Donc, raisonnement de base, les quotas étant figés, on a besoin de peu de statistiques et de fait, on ne sait rien sur bien des pans de la carrière des infirmières. Dernière grande étude en date sur les infirmières, 2008. On est en 2022, si je ne m'abuse. Donc, on ne sait pas au niveau national quelle est la durée de carrière d'une infirmière, tout simplement. On peut l'identifier, l'évaluer au niveau régional, mais au plan national, on ne sait rien de la durée des carrières, on ne sait rien de la mobilité interrégionale des soignants. Donc, c'est quand même assez compliqué de piloter un système dans ces conditions-là. Donc, il vaut mieux s'en remettre à des acteurs plus près du terrain dans ces cas-là. Et puis, quand même, puisque Ludivine Gauthier n'a pas réagi, je ne peux pas ne pas réagir sur l'affaire Parcoursup. Alors, l'affaire Parcoursup, c'est formidable. On lit des trucs dans les journaux où on nous dit que les recrutements se font de façon plus difficile dans les établissements à cause de Parcoursup. Mais il faut savoir simplement qu'il n'y a pas une seule promo Parcoursup qui soit encore sortie. Donc, je ne vois pas comment, mathématiquement, on pourra avoir des problèmes de recrutement derrière liés à Parcoursup, parce que les premiers qui vont sortir de la génération Parcoursup vont sortir à l'été prochain. Mais ça fait partie de, voilà, d'impression d'ensemble où à la fois on va considérer que certaines, que ces professions ont besoin de se situer dans la modernité, mais en fait on va les ramener au bon vieux concours d'antan, à la bonne vieille vocation, donc traiter ces étudiants comme toute autre chose que leurs pères de la même génération. Ben, ce sont des étudiants en soins infirmiers, c'est dommage, mais ce sont des étudiants comme les autres maintenant, qui apprécient la mobilité, qui, quand on les situe au niveau grade licence, eh bien, pour certains d'entre eux, ils ont envie de poursuivre leurs études, on ouvre des carrières d'IPA, eh bien, ils ont envie spontanément de poursuivre leur carrière avec ces nouvelles perspectives, etc., etc. Donc, il y a des fuites dans le système. Ce n'est plus comme avant. On n'entre pas le premier jour de la première année pour sortir tous ensemble au bout de 3 ans. Non, il y a des flux entrants, des flux sortants, et c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et Parcoursup, quand même, il faut aussi considérer que c'est deux fois plus de candidats à la porte. Donc, les acteurs devraient quand même en faire quelque chose, quoi. Quand on a deux fois plus de candidats qu'on en avait avant, eh ben, on utilise cette ressource. Et au fil du temps, on va apprendre à utiliser cette ressource.
Françoise, une intervention ?
Vous êtes en mieux. Je ne sais pas sur ce que dit Stéphane Le Bouler, sachant que voilà, on est tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce qu'il vient de dire. Non, c'était sur ce qui avait été dit avant, en fait, que j'avais levé la main, mais je le dis quand même. C'était sur la question de la féminisation des métiers. Donc ça, je pense que oui, effectivement, il faut que ces métiers deviennent mixtes. Je pense que pour qu'ils deviennent mixtes, il faut continuer à appeler les infirmières des infirmières et pas parler des infirmiers. Et que je pense qu'il faut que les femmes soient fières d'être d'un métier qui est celui d'infirmière et qui porte un nom féminin.
Ah, mais je n'ai jamais dit
et
le contraire.
Que c'est pas en changeant ça.
Je suis une grande adepte de la féminisation des titres, des mandats et des fonctions. Vous prêchez une convaincue absolue, Madame Janson. Ce n'était pas le sens de mon propos.
Mais je pense qu'il y a, une vraie problématique dans ces métiers. J'ai pas mal d'exemples qui montrent que dans des promos d'infirmières, quand vous proposez de venir avec des journalistes, quand vous proposez une présentation au président de région, quand il y a un syndicat et une présidence à prendre, et je ne parle pas pour Ludivine qui est ici, curieusement, il y a 15% de garçons dans la promo, mais il y en a 90% à la présidence, à parler en public, etc. Ça veut dire que nous, les femmes, je pense qu'on a beaucoup à apprendre à nos jeunes collègues, qu'ils soient infirmières ou médecins, et qu'il y a encore beaucoup de choses à changer, mais que ce n'est pas au niveau des écoles d'infirmières que ça se change. Je pense que c'est bien en amont, même s'il faut qu'on y prenne notre temps. Voilà, quant à Parcoursup, effectivement, je suis de l'avis de Stéphane qu'il faut encore attendre un peu pour voir ce que ça va donner, et que moi, je suis très heureuse qu'il y ait des écoles d'infirmières qui nous disent, écoutez, on est désolé, mais on a des étudiants qui vont finir leurs études d'infirmières, mais qui ensuite vont, de toute façon, n'exerceront pas et passeront à la fac pour aller faire un master ou autre chose, et qui le savent quasiment dès la deuxième année de métier d'infirmière.
Alors, on arrive à la... Il est 25, il nous reste 5 minutes. On a deux questions, mais il faut que ce soit vraiment deux questions très courtes. On va les prendre ensemble. Younes et Fabienne, si vous pouvez poser votre question l'une après l'autre, et on va essayer de trouver les éléments de réponse auprès d'Emmanuel, de Guy, de Françoise et de Jean-Paul. Fabienne ?
Younes, d'abord. OK. Bonsoir. Moi, j'ai trouvé très intéressant tout ce qui a été dit ce soir, mais j'essaye d'avoir le raisonnement aussi de comment synthétiser, comment montrer la voie, comment dire vers où on veut aller. Et en fait, moi, il y a juste un terme que je n'ai pas entendu, c'est celui de la simplification. Je vais vous donner juste un exemple. Moi, j'ai travaillé dans des établissements à but non lucratif qui étaient regroupés avec un siège, 52 établissements sur un département, et avec une directrice générale adjointe qui disait à l'ensemble des directeurs et des cadres qu'elle était très fière, au bout de 7 ans, d'avoir la maîtrise de l'ensemble des règles qui s'appliquaient dans cet établissement-là. Moi, je trouvais ça honteux. Personnellement. Et notre système de santé, il s'est cumulé de mille feuilles d'organisation, dans tous les sens, qui est absolument délirant, schizophrène et qui entraîne plein de paradoxes. Ce que je pense, c'est qu'il faut absolument qu'on ait notre volonté partout, dans tous les domaines, de simplification, de raccourcissement des échelons entre l'idée et la réalisation. Alors bien sûr, il faut de l'evidence-based medicine, il faut, l'idée c'est pas de faire n'importe quoi parce qu'on a une idée un jour et que voilà, mais que les établissements de formation, et c'est là où je veux en venir, est-ce que c'est pas là où ça doit être nos laboratoires de la transformation du système de santé? Est-ce que c'est pas là qu'on doit mettre en place de la démarche participative? Mon grand ami Philippe Colomba, qui essaye à corps et à cri de faire utiliser ces modes de management qui sont les seuls à avoir fait leur preuve en utilité, est-ce que ce n'est pas dans les établissements qu'il faut les utiliser avec des temps intermétiers, comme c'est fait à Angers, par exemple? Est-ce qu'il ne faut pas effectivement intégrer la prévention? Ça, c'est mon truc. Mais en tout cas, simplifier, diminuer le nombre d'échelons décisionnels et finalement faire du laboratoire de l'évolution de notre système de santé à partir des établissements de formation.
Alors, on garde la question, on prend la question d'Younes. Ce sera là. Malheureusement, Erwan, je suis désolé, mais c'est un peu tard, la main s'est levée trop tard. Et il nous reste, si on prend 3 minutes, 4 minutes de plus, c'est tout ce qu'on pourra faire. Donc, Younes, est-ce que tu as une question ?
Oui, alors je vais faire très très vite.
On ne t'entend pas très bien.
Hein, on ne t'entend pas très bien.
Voilà, maintenant ça va.
Ok.
Allô ?
Concerne Parcoursup. Parce que les...
On t'a perdu, Younes.
Ah, vous m'avez perdu ?
Oui, là on t'entend maintenant.
Là, c'est mieux ?
Oui.
Donc, je disais, je remercie Stéphane Le Boulaire d'avoir mis l'église au milieu du village en ce qui concerne Parcoursup, parce que la formation en soins infirmiers fait partie des formations les plus demandées depuis qu'elle est sur Parcoursup. Et concernant ma question, elle concerne la loi anti-cadeau. On a entendu tout à l'heure, enfin, parmi les différents intervenants, qu'il y avait une nécessité de créer un peu de lien entre le milieu socio-économique dans lequel les professionnels de santé allaient évoluer après leurs études et leur formation. Et est-ce qu'on peut considérer la loi anti-cadeau comme étant un frein à la création de ponts entre le milieu académique et le milieu socio-économique, en tout cas entre, pour les étudiants en santé? Et qui veut répondre, bien sûr?
Alors, Guy. Je veux bien dire un mot. Parce que je crois qu'il fallait sans doute mettre des barrières, mettre des règles. Mais là, on a atteint un niveau de bêtise qui fait que demain, il n'y aura plus de formation du tout. Isoler les industriels du monde de la santé est la pire des conneries. Je suis désolé de le dire. Alors, qu'on les contrôle, qu'on les empêche d'aller faire de la pub et du business, peut-être, mais qu'ils participent à la formation en payant forcément, en payant éventuellement des congrès ou des séminaires avec les jeunes. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On a une vision totalement malthusienne de l'industrie en France. Alors, on veut rapatrier l'industrie, en même temps, on ne veut pas qu'elle aide. Bizarre.
Et sur la question de la simplification, Emmanuel?
Non, je voulais répondre sur ce sujet-là. Je pense qu'il faut vraiment séparer les formations initiales, où je pense que l'industrie n'a rien à faire dans la formation initiale. C'est la mission des universités, des instituts de formation. C'est à nous de dégager les moyens pour former nos étudiants sans qu'il puisse y avoir de conflit avec les industries du médicament ou du dispositif médical. On n'a pas besoin. Et puis, si on veut les insérer dans le monde professionnel, on n'a pas besoin de faire appel aux industries du médicament. Sur la simplification, je pense qu'en effet, la formation peut être un lieu de réflexion par rapport au système, mais ça doit marcher dans les deux sens, parce que ceux qui forment ne connaissent pas le système, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on tourne en rond. Donc, il faut d'abord que ceux qui forment connaissent le système dans lequel les professionnels vont travailler, vont exercer, et après, ils peuvent réfléchir avec les institutions qui sont chargées des politiques de santé. Ça doit marcher ensemble. Et juste pour un petit mot par rapport à ce que disait Mme Janson sur les infirmières qui poursuivent dans des masters, moi, je trouve que si c'est le cas, on a gagné. Simplement, il faut qu'on en tienne compte dans les nombres d'étudiants qu'on va faire entrer pour compenser ces étudiants qui vont dans les masters. Et ça, c'est formidable. Si vraiment certains s'engagent d'emblée en disant « je continue sur un master », ben c'est qu'on a fait évoluer la profession.
Écoutez, on arrive maintenant à la fin de cette heure et demie. C'est toujours passionnant de vous écouter. Je vois que il y a des propositions qui sont très diverses et en même temps qui sont extrêmement convergentes. Je regrette qu'on n'ait pas de gens, des appareils, des partis politiques qui se soient joints à nous pour puiser des idées un peu nouvelles dans leurs programmes qui sont d'une pauvreté intellectuelle. Vous avez qu'à aller regarder sur Santé aux 55 Faubourgs où on a mis en ligne les programmes en les classant sur 15 points particuliers. Vous allez voir qu'on retrouve des mêmes idées que des idées qui étaient déjà en 2012 ou en 2017. Enfin bon, on est vraiment sur le niveau zéro de la créativité en ce qui concerne les programmes santé des différents candidats. Il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. Franchement, c'est assez décevant. Mais en tout cas, on arrive à la fin de ce cycle. On avait dit avec les quatre think tanks qu'on ferait cinq réunions. On est à la fin de la cinquième. Je crois que ça a été vraiment des moments très, très riches. Et je voudrais vraiment remercier tous les membres du CRAPS, tous les membres de l'ISA, tous les membres des Électrons et tous ceux de l'Observatoire de la régionalisation qui ont travaillé sur ces différents sujets. On a une dernière réunion qui est prévue, qui est celle, en fin de compte, on a demandé aux différents partis politiques de nous faire des capsules vidéo de 2 minutes, 3 minutes pour la prochaine réunion, et ça nous permettra d'avoir la quintessence de leur programme. Alors, pour le moment, je vous dis tout de suite, on a réussi à avoir 3 réponses positives. Je peux les citer, c'est les Républicains, le Parti Socialiste et Europe et Écologie Les Verts. Pour le reste, on n'a encore pas reçu d'accord de leur part. La prochaine réunion, c'est donc le 2 mars. On va voir quand même avec les états-majors si éventuellement on ne peut pas peut-être décaler d'une semaine s'il y a besoin pour qu'on ait un peu plus de propositions. Mais voilà, la sixième et dernière réunion qui nous permettra de débattre tous ensemble sur la qualité des propositions faites sera donc celle normalement du 2 mars sur la base des différentes vidéos que vont nous envoyer les états-majors des différents candidats. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour cette génération d'idées et ce fourmillement de choses qui sont des choses nouvelles et qui sont concrètes et en particulier pour cet intérêt porté au territoire. Et je vous dis donc au 2 mars pour la dernière session, en espérant qu'on ait beaucoup de capsules vidéo de la part des différents partis politiques concernant la santé. Voilà, très bonne soirée à tous et merci encore.